VOA Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. On commence par la contestation au Soudan. La vie a repris timidement à Khartoum mercredi, après la décision des leaders du mouvement de contestation de mettre fin à la campagne de désobéissance civile lancée après la répression meurtrière des contestataires par les forces de sécurité. Mais beaucoup d'habitants restent chez eux en raison du déploiement toujours massif de ces forces lourdement armées. Après trois jours de quasi-paralysie de la capitale, un représentant de la médiation éthiopienne a annoncé vendredi soir que les deux camps avaient accepté de revenir prochainement à la table de négociation. Les pourparlers entre le conseil militaire au pouvoir et les leaders de la contestation sont suspendus depuis le 20 mai, chaque parti voulant diriger la future instance censée mener la transition pendant trois ans. Après le passage à Khartoum le 7 juin du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, les efforts diplomatiques de la communauté internationale pour tenter une médiation devraient s'accentuer avec l'arrivée du secrétaire d'État américain adjoint chargé de l'Afrique, Tibor Nagy. L'émissaire du département d'État américain doit rencontrer au cours des deux prochains jours les représentants de chaque parti. Sur le terrain à Khartoum, la présence des hommes en armes reste très importante, particulièrement celle des forces de soutien rapide, les RSF, des troupes paramilitaires aux ordres du général Mohamed Hamdan Daglo, surnommé Emeti, le numéro 2 de la junte et actuel homme fort du pouvoir. Ces milices sont accusées d'atrocités, notamment au Darfour, et effraient la population. Reportage à Khartoum de notre correspondante Patricia Huon.
Les meneurs de la contestation ont appelé les Soudanais à retourner au travail ce mercredi. Mais la reprise des négociations s'annonce difficile. Lundi, le ministère de la Santé a organisé une visite guidée pour la presse dans plusieurs hôpitaux. L'objectif, accuser les contestataires des dégâts causés.
C'est une clinique ophtalmique ici, un des lieux qui a été complètement détruit par les révolutionnaires. Ils ont tout cassé, regardez tout l'équipement.
Mais la campagne de communication tourne trop. Quand des hommes des forces de soutien rapide, armés de bâtons, de fouets et d'armes automatiques, font irruption dans la cour. Les paramilitaires sont réputés pour leur brutalité et accusés de nombreuses atrocités. La présence des caméras les rend nerveux. Il est vite clair que, comme dans toute la ville, ce sont eux qui contrôlent les allées et venues. Dans ces conditions, le responsable de la clinique ne peut pas s'exprimer librement. Il ne fait aucun doute cependant que la version officielle ne le convainc pas.
Je ne sais pas qui a fait ça, mais ce que je sais, c'est qu'ils étaient armés. Ils ont tiré sur le coffre pour le forcer et ils ont pris l'argent qui était dedans.
Les témoins des violences commises par les forces de soutien rapide sont nombreux. Ibrahim Ahmed a reçu une balle dans le bras lors de la dispersion sanglante du sit-in. Des broches et des vis maintiennent encore son os fracturé, un plâtre est posé autour de son poignet. Emmené dans un hôpital de la ville, il a vu les RSF harceler le personnel médical et poursuivre les manifestants jusqu'à l'intérieur de l'établissement.
Ils ont commencé par faire tourner les moteurs de leur pick-up pour effrayer les gens. Puis, on a entendu des coups de feu. Le deuxième jour, des protestateurs ont trouvé refuge dans l'hôpital et les RSF les ont pourchassés. Certains sont venus dans la salle où nous étions. Nous avons dû nous barricader.
Du sit-in où se sont rassemblés nuit et jour pendant près de deux mois des milliers de personnes, il ne reste aujourd'hui plus rien. Le mouvement de contestation civile compte toujours ses morts. Face à des militaires déterminés à garder le pouvoir, leur soif de changement risque de ne pas suffire à sauver l'élan démocratique soudanais. Patricia Huon, Khartoum, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Au au Mali, le bilan de la tuerie de dimanche dans un village d'Ogon des environs de Bandiagara, dans le centre du pays, initialement estimé à une centaine de morts, s'établit finalement à 35 morts, dont 24 enfants. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement malien dans un communiqué ce mercredi. Bamako avait fait état lundi d'un bilan provisoire de 95 morts et 19 disparus. Mais lundi soir, le gouverneur de la région de Mopti, qui s'était rendu sur les lieux avec une équipe de la protection civile, avait précisé que le nombre des victimes était de 11 adultes et 24 enfants tués, tous inhumés le jour même de la tuerie. Par ailleurs, 6 personnes ont été interpellées suite à des contrôles de routine, dont 2 par la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, a indiqué le gouvernement sans autre précision. Le Premier ministre malien Boubou Cissé s'est rendu personnellement hier au village de Sobané, le site du massacre. Le docteur Boubou Cissé promet le désarmement des milices de gré ou de force. Une enquête a été ouverte par le procureur chargé du pôle judiciaire spécialisé dans la lutte contre le terrorisme. Mais les Maliens pensent que le gouvernement et ses partenaires internationaux ont échoué dans la protection des personnes et de leurs biens. Notre correspondant Kassim Traoré fait le point.
De janvier à juin 2019, il y a eu 3 attaques au centre du pays. Toutes ces attaques ont été menées de la même façon, le même mode opératoire. Baba Dakono, chercheur à l'ISS de Dakar.
Cette troisième attaque dans le centre du Mali, pratiquement dans les mêmes conditions que l'attaque qui a été perpétrée dans la localité de Togo-Sagou, est inexplicable. Inexplicable dans la mesure où, à la suite de l'attaque de Togo-Sagou, les autorités maliennes et même les acteurs internationaux présents au Mali, notamment la MINUSMA, avaient annoncé un renforcement de défaites militaires dans cette localité. Donc on ne comprend jusqu'à présent pas comment des assaillants ont pu attaquer tout un village sans qu'il y ait une réaction qui aurait permis de contenir cette attaque.
Pour le politicien Noum Togo, le Mali et ses partenaires n'ont aucune vision en matière de protection des populations et de leurs biens.
Aujourd'hui, c'est qu'au centre du Mali, nous n'avons pas de dispositifs sécuritaires pour sécuriser la population malienne et leurs biens. Des morts sont enregistrés tous les jours, des attaques planifiées au niveau de l'État malien et non pas une politique. Surtout, faire en sorte en cas d'attaque, il n'y a pas une politique pour sécuriser le Mali. Se trouve dans des situations très difficiles, à travers aussi nos partenaires qui doivent sécuriser la population malienne, les Nations Unies, et là-bas aussi, nous sentons réellement qu'il y a des problèmes très sérieux dans notre pays.
Lors de sa visite dans le village meurtrier de Sobanda, le Premier ministre malien préconise le désarmement de toutes les milices. Docteur Boubou Cissé.
35 morts identifiés. Parmi ces morts-là, il y avait des enfants, 24. Les premières mesures qui vont être prises à partir de maintenant, c'est aller vers le désarmement des milices, d'autodéfense. Nous allons chercher à le faire par le dialogue, mais que chacun se le tient pour information. De gré ou de force, les uns et les autres seront désarmés pour que nous n'assistions plus à cette horreur à laquelle nous avons assisté ces dernières 24 heures.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
On reste en Afrique de l'Ouest. Au Libéria, le président George Weah a invité ses opposants à participer à une table ronde sur l'économie 4 jours après une manifestation contre sa gestion. Mais dans ses propos hier, le chef de l'État ne s'est pas prononcé sur leur principale doléance. Irénée Amanombo.
Asseyons-nous et discutons de la manière d'aller de l'avant, a déclaré le président libérien au pouvoir depuis janvier 2018, rappelant au passage qu'il avait hérité d'une économie en lambeaux. George Weah n'a pas directement répondu au collectif des organisateurs de la manifestation du 7 juin. Il a plutôt lancé un appel, entre autres, aux dirigeants de partis, d'associations de la société civile et aux responsables religieux traditionnels, sollicitant leur participation à une table ronde en vue de réfléchir ensemble à une meilleure relance de l'économie nationale. Sans aborder les revendications du Conseil des Patriotes, George Weah a salué le déroulement pacifique et ordonné de la manifestation qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes. Certains citoyens ont exercé leur droit constitutionnel de se réunir avec pour objectif de présenter leurs revendications à leur gouvernement, a-t-il relevé. Il s'est par ailleurs engagé à continuer à garantir leurs droits et libertés.
Ghana, les 2 jeunes Canadiennes âgées de 19 et 20 ans kidnappées la semaine dernière à Kumasi, la deuxième ville du pays, ont été libérées ce mercredi matin. C'est ce qu'ont annoncé les autorités ghanéennes. Les deux étudiants de l'Université technique de Kumasi, à environ 250 km au nord de la capitale Accra, ont été kidnappés vraisemblablement contre rançon le 4 juin en sortant d'un taxi devant le Kumasi Royal Golf Club. La police Police a précisé qu'elles étaient des volontaires travaillant pour Youth Challenge International, une ONG d'entraide canadienne. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de VOA Afrique.